France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques, Sofia Nartib à la console. La ville, les villes, sujet inspirant et ils sont nombreux à travers les siècles à s'y être intéressés, romanciers, cinéastes, philosophes, historiens, géographes, scientifiques, industriels ou économistes. Thierry Pacaud et Patrick Boucheron sont de ceux-là. Thierry Pacaud est philosophe de l'urbain, Patrick Boucheron est historien, professeur au Collège de France et ils nous font le plaisir d'être nos invités.
L'heure philo. Patricia Martin, sur France Inter.
La France doit être organisée, car tout ne doit pas dépendre de Paris. La structure urbaine de la France doit être revue, car, à l'heure actuelle, seules 4 villes dépassent 500 000 habitants. Pour des raisons bien souvent historiques, on en trouve 6 en Italie et 11 en Allemagne fédérale. Le problème de l'aménagement du territoire est un problème d'organisation. Chaque ville doit avoir un rôle défini, à son échelle. À côté de Paris, capitale à l'échelle mondiale, il faut créer 2 villes d'importance européenne. 6 métropoles interrégionales. 20 villes à vocation régionale, plus une trentaine de centres urbains. Ces villes doivent attirer et garder les étudiants et les élèves des grandes écoles. Les sièges sociaux des grandes entreprises. Ceux qui veulent se distraire, en mettant à leur disposition les installations culturelles et sportives indispensables. Et surtout, ceux qui veulent trouver un emploi.
Voilà pour la feuille de route, c'est une archivina qui date de 1963. Thierry Pacaud, Mesure et démesure des villes, que j'ai entre les mains, vient de sortir en poche chez Biblis. Il était paru une première fois donc en mars 2020, donc en plein confinement. Donc pas n'importe quel moment, c'est un moment particulier où on a plutôt arpenté les villes à pied. On a découvert sa ville autrement.
Ah, tout à fait, oui. Et alors, on a plein de témoignages, effectivement, de gens connus ou pas connus, enfin, des simples citadins, qui, effectivement, tout d'un coup, s'apercevaient qu'il y avait un square pas très loin de chez eux, qu'il y avait des enfants qui pouvaient aussi jouer dans la rue, et puis qu'il y avait un certain silence, parce que les voitures étaient à l'arrêt, et alors on entendait des oiseaux, enfin, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une autre manière de découvrir la ville, mais l'extrait que vous avez passé est tout à fait intéressant, parce que il montre à quel point nous sommes un pays central, centralisé, à la différence de l'Allemagne ou de l'Italie. Et donc, on ne peut comprendre l'urbanisation de la France que si on comprend en même temps la constitution de l'État-nation. Et donc, c'est tout à fait différent dans d'autres pays.
Mais plus largement, au-delà de la France, on peut dire que la terre est devenue urbaine, désormais.
J'en suis persuadé, hein.
Voilà, bon. Vous écrivez que chaque jour, la population urbaine mondiale augmente de 200 000 personnes.
Voilà.
Ouais. Bon. Et ce livre que vous avez écrit, c'est donc quoi? Le traité de la biorégion urbaine?
Alors c'est la conclusion, enfin, du livre, c'est de ce que j'ai appelé l'espérance biorégionale, mais je sais très bien que ça va pas se mettre en place demain, ni après-demain.
Bon. Mais peut-être après-demain.
Mais la question que je me suis posée depuis très longtemps, c'est pourquoi y a-t-il des villes plutôt que rien? Bon, voilà. Ça, c'est une question philosophique. À l'échelle de l'histoire, l'urbanisation, les premières formes urbaines qu'on a pu repérer, c'est 3500 ans avant notre ère, ce qui fait 5000 ans, mettons. Bon. Et ça apparaît, ça se déploie dans les vallées fluviales de tous les différents continents. Et ce sont des villes qui sont des villes-états en même temps. Donc ce ne sont pas des villes qui seraient capitales d'un empire ou d'une nation, parce que ça n'existait pas encore. Bon. Donc il y a des jeux d'alliance, il y a des rivalités, il y a des guerres, évidemment, entre ces villes, on fait le siège, etc. Bon. Et alors du coup, on crée une fortification autour pour se protéger, enfin, etc. etc. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de voir comment ce truc bizarroïde qu'on appelle la ville, parce que En plus, pour nous, en France, le mot « ville » vient du latin « villa » qui désigne un domaine agricole. Donc, c'est quand même un peu ambigu.
Ben oui.
Sans compter qu'après, plus tard, on dit qu'à côté des villes, il y a de la banlieue. Et le mot « banlieue », c'est un terme de l'époque de Charlemagne, qui vient du francique, et qui désigne tout ce qui est sous la protection seigneuriale. Bon, donc c'est encore tout à fait autre chose, puisqu'aujourd'hui, au contraire, on parle des banlieues comme étant des zones de non-droit. Alors qu'en fait, étymologiquement parlant, ce sont celles
c'est
qui
précisément
sont...
Le contraire.
Voilà, c'est le contraire.
Patrick Boucheron, Libertés urbaines, est paru donc au CNRS, pareil, au CNRS Édition. C'est un livre, au fond, très personnel sur ce qui a mené vos travaux d'historien et qui commence par cette phrase que j'ai relevée. L'histoire des villes fut la roche-mère de ma formation. Et j'ajoute que par ailleurs que vous êtes donc historien des libertés urbaines et de l'éloquence monumentale. Vous êtes intéressé en tout cas au départ plutôt aux communes médiévales italiennes.
Oui, tout à fait, dans ce livre qui d'une certaine manière, c'est un petit peu une émission de radio, ça commence comme ça, hein, on nous demande de raconter pendant une heure avec une adresse franche et directe à celles et ceux que ça intéresserait, ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà. Et moi, j'ai voulu aller, je dirais, aux sources savantes, à la fois de mon engagement citoyen et de mon travail historien. Et dans les deux cas, il y avait, oui, la cité. Hein, ce que vous décrivez, Thierry Paquet, c'est l'étalement urbain et d'une certaine manière l'éloignement de ce beau mot de cité, hein, dans une ville qui est la mégalopole. Et moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelait autrefois des cités-États. C'est-à-dire des villes qui étaient à la bonne taille. C'est tout l'enjeu de votre livre, Mesures et démesures des villes. Mmh. Et on les appelle plus des cités-États, parce que justement, cité est ambigu. C'est aussi un mot ambigu, parce qu'il trace un trait d'union entre la cité gréco-romaine et la cité épiscopale, et alors qu'on sait que c'est pas ça. Et c'est ça qui est fascinant, parce que on va parler de philosophie, on va parler d'histoire, on va parler de géographie. Dans les villes, il y a une sorte d'insistance topographique. D'une certaine manière, on s'y retrouve. C'est quand même les mêmes espaces, pas toujours les mêmes mots, et jamais les mêmes réalités sociales.
Ouais. Alors, pour en revenir d'un mot, Patrick Boucheron, au reportage qu'on a entendu en guise d'introduction à l'émission, quand il est question d'aménagement du territoire, c'est de l'histoire ancienne, la politique de la ville, c'est quelque chose qu'on a mis complètement de côté. Autrefois, changer la ville, c'était aussi changer la vie. Enfin, autrefois, il n'y a pas si longtemps, dans les années 80.
Moi, j'ai travaillé avec cette idée. Hein. C'était, le slogan du Parti Socialiste à l'époque, et puis avant des situationnistes, et puis avant encore des humanistes. Voilà. Et là encore, j'ai travaillé sur la fin du Moyen-Âge, et dans des villes qui n'étaient plus déjà des communes, donc dans un moment post-communal. C'est pour ça qu'on peut, ce ne sont pas des cités-États. Et à ce moment-là, l'architecture est devenue un art de l'éloquence. C'est-à-dire comment, au fond, convaincre du bon gouvernement, etc. Et donc, cette architecture qu'on appelle humaniste, et vous y avez beaucoup contribué à réfléchir à ça, Thierry Paquet, et d'une certaine manière, jusqu'à Thomas More, on estime que pour changer la vie des gens, leur existence, le cadre urbain n'est pas qu'un décor, c'est d'une certaine manière le principal protagoniste. Voilà. Et donc cette idée un peu extravagante, mais qui fonde la notion d'architecture et d'urbanisme, qu'on va vraiment changer la vie des gens, pas simplement leur cadre, mais leur vie même.
Thierry Paquet, est-ce que vous diriez, ce que vous iriez jusqu'à dire, parce que je crois que vous l'écrivez quand même d'ailleurs, en tout cas, je ne me suis pas trompé, que la France a tué certaines de ces villes. Et vous citez un certain nombre d'exemples comme Béziers, Moulins, Vierzon, Saint-Étienne, Périgueux. Et vous parlez aussi de l'endroit où vous avez, je pense, une maison, à deux pas du parc naturel de la Brenne. Et là, il y a quand même des choses qui sont plus tout à fait les mêmes et vous le regrettez.
Oui, oui. Depuis, je l'ai vendu, mais enfin bon...
Dans le livre, elle vous appartient toujours.
Alors, je voudrais revenir quand même sur la notion d'aménagement du territoire, parce que j'en ai fait l'historique. C'est Eugène Claudius Petit, le premier ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui utilise ce terme dès 1946, et ça lui était soufflé, je pense, c'est une hypothèse, par un groupe de géographes qui militaient, avec Pierre Georges entre autres, qui militaient pour la géographie active. Donc il fallait que l'État prenne en main l'organisation territoriale du pays. C'est tout à fait l'extrait qu'on a entendu. Et donc, du coup, ce sont des super technocrates de Paris qui décident, sans forcément bien connaître ni la Bretagne, ni la Provence, où on va mettre une centrale nucléaire, une autoroute, une gare, etc., etc. Et du coup, évidemment, on a même créé la DATAR pour bien marquer cette réflexion-là. Et du coup, moi, je milite activement pour ne plus utiliser le mot aménagement, mais le mot ménagement, qui vient d'un vieux verbe français que le verbe manoir, qu'on a perdu depuis très très longtemps, et qui signifie prendre soin. Et donc, je crois que le travail de l'État, mais pas seulement...
C'est de prendre soin des villes et des citoyens.
Et des villes, des citoyens, des lieux en général. Ouais. Et donc, du coup, il y a des villes, moi je suis très, très attristé de les observer, parce que le centre ancien périclite complètement, on voit des boutiques murées, etc. Et puis, c'est donc ce que j'appelle la périphérisation du centre, et à la périphérie de ce centre, je pense à Châtellerault, à Châteauroux, etc., vous avez le centre commercial.
On a tous vu ça, on voit tout ça.
Mais même des services publics, et puis les multiplexes, etc. Donc du coup, on a une sorte d'inversion. Et évidemment, pour que ça puisse marcher, ben, il faut l'automobile.
Le géographe, d'où après les gilets jaunes et tout ça, tout ce qu'on a connu.
Exactement.
D'où le géographe Michel Lussault, c'était en septembre 2017, il est spécialiste de l'analyse des modalités de l'habitation humaine des espaces terrestres, rien que ça.
L'urbanité n'est pas rendue possible par le développement des inégalités sociales, par le fait que les contrastes sociaux dans les villes, lorsqu'ils sont très accusés, empêche cette urbanité de se créer parce que l'inégalité sociale est polémogène. L'inégalité sociale est créatrice de conflictualités fortes entre les individus. Et là où on essaierait de développer une sorte d'urbanité de concorde, l'inégalité sociale proposerait plutôt une urbanité de discorde, c'est-à-dire une conflictualité en lieu et place de ce vivre ensemble créateur, eh bien, une polémologie permanente, hein, une polémique permanente qui serait plutôt disruptive et destructrice des liens sociaux.
On est loin du respirer ensemble, on est loin d'une communauté d'affect et de destin, hein, l'adage du Moyen-Âge, Patrick Boucheron, l'air de la ville rend libre, on serait censé donc y vivre mieux qu'ailleurs.
Oui, je suis parti de là, évidemment. C'est un adage qui est tardif, d'ailleurs, qui est la fin du XVe siècle en Allemagne, mais qui désigne d'abord quelque chose de très concret, qui est que pour les serfs déguerpis, c'est-à-dire ceux qui réussissent à échapper à l'emprise du seigneur, il suffit de passer les portes de la ville pour s'affranchir de cette ancienne servitude juridique. Mais évidemment, ils rentrent dans une autre dépendance, qui est une dépendance économique. Et la plupart du temps, cet affranchissement, ils doivent le payer. Au-delà de cette réalité urbaine qui est que, effectivement, la ville, en tout cas au Moyen-Âge et une partie de l'époque moderne, eh bien, annule au fond les divisions juridiques antérieures, il y a cette idée plus profonde qu'il y a une émancipation, hein, ce que vous appelez Thierry Paco, l'urbanisation des mœurs, c'est-à-dire la civilité, qu'il y a quelque chose dans la ville, dans la grande ville en particulier, mais pas la trop grande ville, et c'est toute question, qui nous libère. Et alors, moi comme historien, j'ai appris à résister à cette idée, à résister à l'idéalisme civique que beaucoup d'historiens, comme Fernand Braudel d'ailleurs, qui disait « la ville est césure, rupture, destin du monde ». Et moi, comme médiéviste, on m'apprenait au contraire que ben non, elle fait partie de l'espace féodal. On peut pas dire que c'est le tombeau du Moyen-Âge et le berceau des libertés modernes. Elle est effectivement dans le territoire. Et en même temps, dans ce livre « Liberté urbaine », je cherche à, comment dire, à sauver quelque chose de cette idée, qui est que, oui, il y a une forme de d'urbanité à sauver, y compris contre l'étalement urbain, parce que la ville, au fond, mais la ville des géographes, comme la ville des historiens, comme la ville des philosophes, c'est une certaine catégorie de la densité et de la diversité. Voilà. Il faut que l'habitat soit dense et surtout qu'il y ait une diversité des occupations humaines. Et donc on peut retourner l'accusation, si on n'aime pas la ville, alors on n'aime pas la diversité.
Mais justement, il faut une diversité sociale. Or, ce que dit Michel Lussault, c'est que s'il y a des inégalités sociales trop marquées, ça ne marche pas. Alors comment on fait ?
Alors, ça ne marche pas. Je donnerai deux exemples à l'échelle planétaire, parce que la question urbaine, vous l'avez très bien dit, c'est la Terre qui est urbaine. Donc il faut regarder ça de cette manière-là maintenant. Et donc, il y a ce qu'on appelle les gated communities, c'est-à-dire les enclaves résidentielles sécurisées, qui sont le premier produit immobilier au monde aujourd'hui, et sur tous les continents. Et puis, de l'autre côté, la bidonvillisation. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est plus difficile à chiffrer. Mais enfin, on peut dire que plus d'un milliard de citadins sont des non-citadins, sont des bidonvillois, et vraisemblablement un milliard et demi, mais bon, voilà. Et donc, à partir de là, on s'aperçoit que dans la ville, elle se fragmente, et il y a des villes fermées, j'allais dire, à l'intérieur de cette ville. Donc, ce que disait Michel Lussault est tout à fait juste, c'est que on est tous des urbains, mais on n'est pas tous des citadins logés à la même enseigne.
Et encore moins des citoyens.
Mais est-ce que, pour en revenir à la notion d'urbanisme aussi, vous écrivez, Thierry Pacaud, que c'est un moment occidental et masculin de la fabrique de la ville productiviste?
Oui, là j'y vais fort exprès là, parce que... parce que précisément, les maîtres mots sont la fonctionnalité, donc on va là justement aller à l'encontre de la diversité culturelle en disant que tous les êtres humains ont les mêmes besoins, et on va répondre à ces besoins par les mêmes recettes fonctionnelles qui seraient efficaces, qui seraient rationnelles, etc. Et je pense que non. Bon, voilà, donc du coup, je préfère là encore parler du ménagement et développer ce que j'ai appelé la Sainte Trinité vertueuse, du cas par cas, du sur-mesure et du faire avec les habitants et le vivant.
Vous avez de bonne, du sur-mesure, vous voulez faire ça?
Ben oui.
Avec le nombre avec les milliards d'habitants sur Terre. Ben c'est bien, c'est une utopie. Françoise Brode sur France Inter, dérives urbaines dans la ville, cannibale, c'est la dérive générale.
Thank you.
bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. Patrick Boucheron et Thierry Paco sont nos invités. Le premier est historien, le second philosophe de l'urbain. C'est bien les mots, c'est beau et ça aide à comprendre. Si on revenait sur deux mots, diversité et urbanité. Je le fais à votre demande, Thierry Paco, c'est vous qui nous l'avez demandé pendant le disque.
Oui, parce que je suis très heureux d'entendre Patrick parler de ça aussi. Non, alors, urbanité, c'est un terme qui n'existe pas en grec, qu'on trouve en latin, et on considère que c'est Cicéron qui va le mieux le formuler. C'est la maîtrise de la langue latine. Être quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui maîtrise si bien la langue qu'il va servir d'interprète aux autres qui parlent patois ou qui parlent une autre langue et qui débarquent en ville parce que c'est là où les choses se passent d'une certaine manière. Et donc, cette forme de politesse, finalement, et de soutien me plaît beaucoup. Et c'est une... Encore aujourd'hui, on dit ça. Quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui est vraiment...
Il y en a de moins en moins. Il faut les chercher avec une loupe.
L'urbanité, c'est pour moi, c'est vraiment une attitude, et ce n'est pas un lieu, parce qu'aujourd'hui on dit, un architecte va dire, ah j'ai fait une placette urbaine, etc. Non, enfin, bon.
Oui, on voilà. a compris.
Alors la diversité, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi en France, à un moment donné, on définissait la ville comme étant au moins peuplée par 2000 habitants, à condition qu'ils ne soient pas éloignés les uns des autres de plus de 200 mètres. Bon. Et je me suis aperçu qu'il y avait tout un débat sur c'est quoi une ville, comment on va la quantifier, depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'en 1846, où ce chiffre va devenir la référence. Mmh. Et la réponse pour ce chiffre, c'est la diversité. Au-dessous de 2000, on n'a pas la diversité suffisante pour avoir un officier de santé, on disait pas médecin à l'époque, un apothicaire. Un curé, un instituteur, un homme de loi, un boulanger, etc. Ça, plusieurs estaminets, évidemment. Bon. Et donc, c'est très intéressant, dans la France rurale de l'époque, 2000 habitants, c'était top. Alors, ça colle plus, je pense, avec aujourd'hui, parce que on peut avoir aujourd'hui des villes de plus de 2000 habitants où il n'y a pas du tout cette diversité. Parce qu'il n'y a plus aucun commerce, il n'y a plus de service public. Donc on est là dans une autre manière de saisir la réalité de l'urbanisation. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer qu'on est plutôt dans un urbain généralisé, avec de moins en moins de villes dignes de ce nom, qui seraient celles qui combinent urbanité, diversité et altérité.
Il y a finalement peut-être alors moins de séparation aussi entre ville et campagne, non ? C'est ça ?
Absolument, bien sûr.
Patrick Boucheron ?
Oui, alors il y a cette limite inférieure et celle dont vous parlez aussi dans votre livre Mesures et démesures des villes, Thierry Paco, la limite supérieure. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où c'est trop
craque.
Grand. Et ça, c'est une hantise moderne. Hein, au XVIIIe siècle, on a peur des capitales prédatrices qui dévorent non seulement les hommes mais les territoires autour. Mais c'est aussi une question politique. Et ça m'a intéressé en tant qu'historien de la commune et de ce qui se passe après, c'est que, est-ce qu'il y a une limite au-delà de laquelle, d'une certaine manière, le vivre ensemble ne peut plus être compris et expérimenté à une échelle civique ? Alors, bon, on peut faire l'histoire longue, elle est philosophique, d'ailleurs, c'est Platon, l'auteur des lois, qui fixe un peu arbitrairement à 5040
le nombre
de citoyens maximal.
Platon, ce qu'il dit, c'est qu'il faut... Enfin, on se débarrasse des gens, quand même, d'une manière manu militari, non ?
Oui, mais alors, ça, mais d'une certaine manière, cette question-là, elle est...
Non, puis il y a une double domiciliation, il y a campagne et ville.
Les mêmes
ont deux lieux.
Oui, mais c'est une question qui n'est pas que théorique. C'est une question qui n'est pas que théorique, c'est-à-dire qu'au-delà de... Il y a effectivement des seuils qui rendent difficile, au fond, la perpétuation de l'expérience politique. Moi, j'utilise ce terme un petit peu barbare, mais qui est venu de l'informatique et qui a été retravaillé par une anthropologue qui s'appelle Anna Tsing, la scalabilité.
Une question d'échelle.
C'est une question d'échelle. Et la scalabilité, par exemple, un système informatique, il tient jusqu'à un certain nombre d'utilisateurs.
Donc, si on change d'échelle, on prend un risque.
On prend un risque. Et ouais. Si vous y réfléchissez, c'est une, puisque vous parliez d'utopie, c'est un reproche que l'on fait systématiquement aux utopies ou aux communautés ou aux expériences communautaires. On dit, ouais, ça marche à quelques-uns. Mais il y a un moment où on va atteindre un niveau qui rend impossible le vivre civil. Et c'est une question qui a été la question du Moyen-Âge. Puisque, évidemment, ces cités indépendantes dont j'ai tenté de faire l'histoire, voilà, Sienne, Florence, il y a un moment...
Il y a un moment, finissez votre phrase quand même, pardon.
Il y a un moment où elles deviennent des capitales d'un d'états territoriaux et elles dépassent donc le cadre communal du gouvernement, de l'autogouvernement.
Alors nous allons écouter ensemble une archive qui, à mon avis, va vous intéresser.
Observez les murailles. Elles marquent l'emprise d'une ville sur son territoire. La ville bien gouvernée garantit la sécurité sur les routes. Quand il le faut, c'est par la force. Jusqu'à la mer, les paysans peuvent alors cultiver sans crainte. Toute saison. Pour les citadins qui ont acheté la terre à crédit, l'investissement est rentable. Les habitants des campagnes peuvent librement monter à la ville. À mesure qu'ils s'approchent, le peintre Lorenzetti les figure de plus en plus grands. En route pour la chasse, ces aristocrates ne pensent plus à faire la guerre. Passées les portes de la ville, les rues sont ouvertes au commerce et à l'artisanat. Un bon gouvernement n'oublie pas les métiers exercés par le peuple. Participe pleinement à la prospérité de la commune. L'éducation est encouragée. Le maître d'école tient sa boutique entre le bottier et vendeur de céramique. Dans l'espace commun des voies publiques, la parole circule aussi librement que les corps et le bien.
Alors, il s'agit ici de la description d'une fresque, Patrick Boucheron. Vous dites que c'est une des images que vous avez le plus intensément regardées dans votre vie de chercheur.
Oui,
cette fresque dite du bon gouvernement.
Elle a été peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338 dans le palais communal de Sienne, à un moment où il craignait que les libertés urbaines de sa ville ne soient attaquées, menacées par un pouvoir autoritaire qu'on appelait le pouvoir de la seigneurie. Et il pensait qu'il fallait d'une certaine manière affronter ce danger politique de la tyrannie par le rappel de ce qu'était une ville. Et une ville, effectivement, c'est tous nos thèmes dans sa diversité, dans sa beauté, mais qui n'est pas la beauté des aménageurs. Alors... Parce que ce qui est extraordinaire quand on voit cette ville, c'est que c'est une ville bricolée. C'est une ville, alors là, je suis d'accord avec vous, dont on doit prendre soin. C'est une ville qui n'est pas symétrique. Il n'y a d'ailleurs pas de perspective à proprement dire. Ben, vous avez entendu, les personnages gagne en stature, enfin, s'élève au fur et à mesure qu'il s'approche de la ville. C'est dire avec suffisamment d'éloquence, mais l'éloquence de la peinture elle-même, que la ville est ce lieu où les volontés accordées, et d'ailleurs encordées aussi, parce qu'il y a une concorde qui est une corde qui les relie sans les entraver, eh bien, grandit tout le monde. Bon, c'est quand même assez beau. Et d'une certaine manière, ce qui se joue là, c'est cette idée de la diversité urbaine et du fait que la ville est ce qui permet à chacune et chacun d'entre nous de s'affairer à nos existences, à nos conversations, sans que rien ne vienne nous contraindre.
Un espace public, dans des espaces publics.
Alors ça, c'est quelque chose qui nous a intéressé, Thierry Pacaud et moi, différemment. C'est-à-dire, l'espace public, c'est une notion alors philosophique, pour le coup. Hein, c'est en fait la libre disposition d'un esprit critique qui passe par l'usage rationnel de la parole. Et ça n'a rien à voir avec les lieux publics au sens des urbanistes. C'est-à-dire qu'un lieu public peut ne pas se développer d'espace public, et il peut y avoir un espace public dans des lieux privés. Ce sont deux choses différentes, et ça se voit très bien sous le pinceau de Lorenzetti, parce que pour nous, c'est quoi une belle cité italienne? C'est une place. Ben là, il n'y en a pas. Il y a des carrefours,
Des carrefours, c'est pas si récent que ça d'ailleurs.
Hein. Non.
Je l'ai appris en vous lisant. Moi, je pensais que les carrefours, c'était récent. Pas du tout, en fait. Les carrefours, ça existe depuis très très longtemps, Thierry Pacaud.
Oui, c'est-à-dire que les carrefours, il y a Ecat,
j'ai pas dit les ronds-points.
Hermès, oui. Alors, les ronds-points, c'est plutôt la période classique et ça vient de l'aménagement des forêts. Bon, donc oui. Ensuite on les, oui. on les met en ville, mais bon, au départ c'est oui. c'est comme ça. Mais sur le l'être urbain, enfin bon, que j'avais inventé l'expression homo urbanus qui n'a pas pris du tout quand j'avais écrit un bouquin en 90 là-dessus, justement pour dire qu'à partir des villes italiennes de la fin du 15e début du 16e siècle apparaissait un être urbain qui se distinguait du lignage auquel il appartenait. Et donc il y avait plein d'éléments qui allaient dans ce sens-là, la généralisation de la signature, le testament, l'autoportrait, le portrait, l'autobiographie, le journal intime, enfin des tas de choses comme ça, pas simultanément, mais à peu près dans la même période, et ça allait qualifier la personnalité spécifique de l'être urbain. Mmh. Et en fait, ça va avec aussi ce type de bon gouvernement.
Alors, et là... ça va avec l'humain, parce que quand oui. vous dites qu'on parlait d'échelle, tout à l'heure Patrick Boucheron parlait d'échelle, l'échelle humaine, elle est importante.
Elle est décisive. Et la diversité, parce que avec l'industrialisation, on va être dans la spécialisation territoriale, et donc on l'a bien vu avec des villes industrielles, mono-industrielles, qui, lorsque l'entreprise est délocalisée, eh bien, s'effondrent. Parce qu'elles n'ont pas la diversité pour se relancer sur autre chose. Et donc, Détroit, on est un exemple très célèbre. Voilà, 2 millions d'habitants, et aujourd'hui un peu plus de 500 000, et l'industrie automobile n'y est plus. Eh bien, c'est la ville meurt.
Mais est-ce que les villes disparaissent, comme Pompéi a pu disparaître un jour, définitivement, ou bien est-ce qu'elles peuvent, tel un phénix, renaître de leurs cendres d'une manière ou d'une autre manière différente?
C'est plutôt ça. Et prenons l'exemple de Rome. Mais là, je pense que Patrick Boucheron a plus de choses à dire que moi. Moi, c'est du travail. Je fais confiance aux historiens, mais sur Rome, c'est très intéressant parce que c'est vraisemblablement la ville qui a été la plus peuplée avant 1800, à un moment de son âge d'or. Alors là, les chiffres varient entre plus d'un million à 2 millions. On le sait par la fiscalité du portuaire sur l'importation du blé d'Égypte. Et on traduit ce blé d'Égypte, ces tonnages, en nombre de pains, et le nombre de pains en nombre d'habitants qui étaient nourris par ça. Bon, donc c'est un peu à la louche, mais enfin, on arrivait quand même à dire que ça dépassait le million d'habitants. Bon. Mais ben, Rome va décliner mais considérablement.
Bah au Moyen Âge c'est 40 000 habitants,
voilà, donc de 2 millions à 40 000
dans l'Anse du Tibre, oui. Ce qui reste quand même une grande ville pour le Moyen Âge, voilà. C'est-à-dire ça reste quand même une des villes qui est une ville importante, mais évidemment c'est pour ça que d'une certaine manière le même nom, et en particulier même le nom de Civitas, ne désigne plus la même chose. Et ça c'est intéressant aussi parce que vous parliez, ça m'y fait penser, Thierry Paco, de ce geste urbanisateur, démiurgique et viriliste. Ben, il faut pas croire qu'on est séparé de ce technicisme. Alors évidemment on entend une archive de 63, on se dit bon voilà, mais d'une certaine manière on a encore du mal aujourd'hui à faire comprendre à ceux qui rêvent de la ville du futur que la ville du futur, celle de 2100, on va dire, c'est la nôtre. C'est-à-dire que essentiellement, c'est celle que nous habitons aujourd'hui, réaménagée marginalement. C'est-à-dire que cette idée des villes nouvelles, des mégapoles d'équilibre, etc. Enfin, voilà, tout ça a vécu. C'est-à-dire que la ville du futur a fait long feu. Aujourd'hui, nous savons que c'est pour ça que d'une certaine manière, cette fresque de Lorenzetti a encore une étrange actualité, c'est qu'elle montre comment prendre soin d'un paysage urbain qui était là avant nous et qu'on n'aménage qu'à la marge, en fait.
Alors, vous parlez de mégapoles, il y a aussi des mégacités. D'abord, je voudrais savoir quelle est la différence entre les mégapoles et les mégacités. En 2040, il y aura 64 mégacités, dont 6 en Europe.
Alors bon, c'est des notions de... Il y a une officine des Nations Unies qui s'appelle Habitat, qui est basée à Nairobi et qui tous les 20 ans, depuis 1976 à Vancouver, fait un grand rassemblement de réflexion collective. Et donc, c'est eux qui impulsent ça et qui ont appelé mégacités les villes qui avaient plus de 10 millions d'habitants. Donc une mégacité, c'est ça. Mais il y a des villes qui en ont 7 millions, 8 millions, et qui sont aussi à prendre en considération dans le même mouvement. Alors, le chiffre qu'il faudrait avoir en tête... Bien que, bon, les chiffres, c'est pas ma tasse de thé, mais enfin, ça donne une indication quand même. On parle de 750 villes de plus de 5 millions d'habitants en 2030, dont 150 rien qu'en Chine, avec comme moyenne 6,5 millions d'habitants. Donc, et ça, cette grossitude urbaine, c'est ce qui est valorisé par les Nations Unies. Et c'est une grave erreur.
Oui, et puis il y a autre chose
aussi. Grossitude, on pourrait dire une obésité, on a envie de dire, non ?
Oui, 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 absolument.
Bah, c'était sur le thème de l'obésité, de l'ogre urbain qu'on commençait à craindre, effectivement, ces villes démesurées, encore une fois, dès le XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant aussi, du point de vue de la diversité des gouvernements, hein, parce que moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est l'histoire des pouvoirs. Parce que là, on dit, bon, bah, il y a l'Italie, mais la France, on est dans un pays, l'État-nation, mais en même temps, ce sont deux histoires qui cheminent parallèlement. Nous avons eu aussi, au Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle, une autonomie urbaine, enfin, en tout cas, une histoire de la commune qui est parallèle à l'histoire de la souveraineté étatique. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que cet échelon de pouvoir, eh bien, il intéresse les gens, c'est peut-être celui, d'ailleurs, auquel ils font encore confiance, hein, l'échelon municipal, et d'une certaine manière...
Mais on a du mal quand même à décentraliser en France.
On a du mal à décentraliser, mais d'une certaine manière, on voit bien que en ville, il est un circuit court de la décision qui renforce la confiance des citoyens dans leurs dirigeants. Mmh. Et ça va même un peu plus loin, parce que si on prend par exemple la question environnementale, qui évidemment vous inquiète beaucoup, Thierry Pacaud,
et puis inquiète tous.
Bah oui, et l'air de la ville rend libre, ok, mais encore faut-il qu'il soit respirable. Et bon, donc ça, c'est cette question aussi que je pose. On a bien vu à partir de 2015 des accords de Paris que des pays refusaient de l'appliquer, ben les États-Unis de Trump à ce moment-là, enfin deux ans plus tard, eh bien les grandes villes, elles, pourraient y suppléer. Et que au fond, il y a cette idée d'une sorte d'archipel urbain des villes qui, quoique grandes, sont responsables et peuvent être durables, qui ferait une sorte de gouvernement des honnêtes gens à l'échelle mondiale, qui est peut-être une utopie.
Comme une aristocratie, en quelque sorte.
Et un peu inquiétante. Oui. Et c'est pour ça que, effectivement, j'en parle aussi un peu, il y a cette idée... On revient à la question de la justice territoriale. Quel est ce monde où on se sent plus chez soi dans une grande ville distante de chez nous de quelques dizaines de milliers de kilomètres que justement dans une petite ville ou dans le périurbain ou en banlieue. Vous voyez, c'est-à-dire cette notion d'archipel, c'est-à-dire de reconnaissance au loin, eh bien, d'une certaine manière, elle fait l'homo urbanus d'aujourd'hui,
qui est à la fois local et global.
Et on voit bien aussi, vous parliez des gilets jaunes, qu'elle produit une injustice territoriale qui est de plus en plus insupportable, en fait.
Alors moi, je préfère biorégion, évidemment, à archipel. Mais ça, l'idée est la même, un regroupement. Ce qui déjà
c'est
explique
Yves Cochet, qui disait que Yves Cochet disait que, par exemple, que l'Île-de-France pouvait devenir un archipel de biorégions.
Oui, enfin, il découpait avec Agnès Sinaï, enfin, ils étaient trois, il découpait l'Île-de-France, laissant de Paris de côté, du reste, dans leur schéma, en huit biorégions. Mais moi, je suis vraiment dans cette idée que la ville du futur, elle sera pas la ville du futur. Il y aura des villes du futur. Il y aura une diversité de villes.
Et les futurs urbains existent
certaines,
déjà.
Certaines peuvent très bien décroître. De passer de 3 millions à 1 million ou à 600 000. Elles peuvent se prêter territorialement à un agencement différent. D'autres, au contraire, ce sera beaucoup plus difficile de régler ça dans les... Et ça pose la question des modalités du politique. C'est-à-dire que effectivement, le maire est élu, mais le maire est élu, ok. Mais avec les questions environnementales qui sont massives, il nous faut écologiser notre esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un conseil municipal comme on en a aujourd'hui ou un gouvernement du reste qui se préoccuperait de responsabilités en silo. Monsieur et Madame Sécurité, Monsieur et Madame Parquet Jardin, etc. Non. Il nous faut inventer des structures politiques transversales et donc collégiales. Et là, c'est un enjeu planétaire. Alors, il y a plein d'expérimentations, mais elles sont souvent très modestes, et puis elles peuvent aussi disparaître parce qu'elles sont très fragiles.
Et sachant qu'il faut tous se bousculer pour ça, parce qu'il faut sortir des schémas qu'on a dans la tête.
Absolument, je pense que c'est décisif.
Eh bien, faisons-le. Tinder Sticks sur France Inter, c'est un groupe britannique. New World, ils seront en concert à Biarritz, à Toulouse, à Lyon, à Annecy, à Bordeaux. Tout ça rien qu'au mois de novembre.
the shit that I was falling through. Thought it was just the world rising. Maybe I was crawling. Everything moved past me slow. Thought it was just the world sliding. Maybe it's a new world. 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 Thundering and lightning, and the ground began to moan. My days were just breaking. Shaking and collapsing. Was it all of my making? Maybe it's a new world. 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 I won't let my love become my weakness. I won't let my love. Everything that I was hauling, everything that I was trying to prove, everything that I was hiding, everything that I was going through, everything that I was holding, everything that I was trying to lose, everything that I was dreaming, everything was nothing new. I won't let my love. I won't let my love become my weakness. I won't let my love become my weakness. I won't let my love become my weakness.
De la ville à la chambre, je ne sais pas combien de pas il y a, puisque nous parlons de la ville ce soir. Gaston Bachelard, c'est une archivina qui date de 1959.
J'ai fait, si vous voulez, mon enquête pour montrer que les espaces, enfin la poétique de l'espace, est une poétique de l'habitation heureuse. J'ai commencé par montrer que la maison, la chambre, la maison c'est trop grand, c'est pas la chambre, était, si vous voulez, quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Puis la maison, je l'ai... j'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave et sur le grenier. J'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Les femmes ne vont pas à la cave dans mon pays. Voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible.
Espace aimé, louangé, défendu contre des forces adverses avec Gaston Bachelard, Thierry Pacaud, c'est la territorialisation de nos rêves, avec nos rêveries. Avec
oui, il invente la topoanalyse en 1957 dans la poétique de l'espace, qui est justement notre psychologie, j'allais dire, des territoires de l'intimité. Et donc, alors il a cet archétype jungien de la maison natale avec la cave pour les interdits, les secrets, les étages qu'il faut gravir. dire, parce que l'être humain est un être qui se dresse, qui est debout, et qui répond à la hardiesse de l'escalier, je prends une citation de Bachelard, et puis le grenier où on entasse des vieux vêtements, des ancêtres, etc., et avec lesquels on se déguise quand on est enfant, et qui est une sorte d'incitation à la rêverie. Et alors il invente le mot topophilie sans se rendre compte à quel point il est judicieux. Dans La politique de l'espace, le terme apparaît 4 fois. Mais il ne le définit pas. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la topophilie, c'est à la fois le lieu heureux, mais qui combine temporalité et territorialité. Parce que il parle aussi de rythme-analyse. Et donc ça, pour nous, c'est un point très important.
Mais justement, vous parlez de temporalité, mais le temps et l'espace, c'est aussi des choses qui sont en train de changer considérablement, qui sont en révolution totale.
Absolument.
On s'en rend peut-être pas forcément compte. Sur la rêverie, le rêve, je voudrais, Patrick Bouchon, je sais que vous en avez assez, de répondre à des questions sur les JO. Il n'empêche que vous êtes co-auteur...
Non, je n'ai pas du tout assez.
Non, mais bon, vous êtes co-auteur de la cérémonie donc d'ouverture de ces fameux Jeux Olympiques. Et je rappelle que vous êtes historien des libertés urbaines et de l'éloquence monumentale. Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, s'est prêté à une sacrée éloquence monumentale.
Oui.
En l'occurrence,
et avec, au départ, un peu de mauvaise volonté de la part de ses habitants, dont certains sont partis et apparemment le regrettent. Et alors qu'effectivement, ce qui était en jeu, et moi, ça m'a profondément touché, parce que ça me ramenait effectivement à cette roche-mère de ma formation, hein, d'historien de la ville, comme vous l'avez aimablement rappelé au début de cette émission, et aussi des puissances de l'image. Et aussi des puissances de l'image. C'est vrai que...
C'était un récit sans parole.
C'était un récit sans parole, par la traversée de la ville, et d'une certaine manière, c'est ça qui est intéressant du point de vue de l'urbanisme, c'est que nous, on a travaillé, en fait, moi j'ai travaillé bien avant la cérémonie d'ouverture, un peu à Paris, voilà, depuis en fait 10 ans sur cette question.
Ouais.
Et cette question des Jeux Olympiques comme opérateur de transformation urbaine, elle s'est posée pour la première fois à Barcelone en 1992. Et justement, aujourd'hui, il y a les accords de Paris, le souci environnemental, d'autres inquiétudes de sécurité qui faisaient que on n'avait pas envie de construire la ville sur la ville. On n'avait pas envie d'avoir à la fin des éléphants blancs dont on ne saurait que faire. Et d'une certaine manière, on s'est dit « Ok, on va transformer la ville par les JO, mais en fait, ce qu'on va transformer, c'est la perception de la ville. » C'est la vision qu'on a de la ville, simplement la traversant, ce qui est très médiéval.
Et les images qu'on a vues appellent à l'imaginaire,
oui,
ont appelé à l'imaginaire.
Et cette idée aussi, que mettre du spectacle vivant dans la ville va, mais c'est vieux comme, je dirais, le Festival d'Avignon, hein, ça c'est l'idée de Villars, on met un gradin dans la cour d'honneur du Palais des Papes, et chacun se grandira, et le théâtre, et le monument.
Et c'était pas non plus l'idée, c'est moi qui ai les plus gros bras, etc., c'est moi qui suis la plus forte. Parce que tout à l'heure, on parlait des cités qui se faisaient quelquefois, là. Enfin, il fallait faire une démonstration de force. C'était pas du tout ça. C'était pas cet esprit-là.
Non, parce que c'est la ville d'aujourd'hui, dans sa diversité, dans ses inquiétudes, dans ses hantises, une ville un peu cabossée, c'est vrai. Il fallait pas la ramener. Il fallait pas faire une leçon de puissance. Il fallait se montrer tel qu'on est.
Et peut-être se demander, parce que là aussi vous en parlez, se demander qu'est-ce qu'on déteste vraiment quand on dit qu'on déteste la ville ou une ville. Et comment est-ce qu'on peut faire pour l'aimer mieux, au fond ? C'est ça aussi qui est en jeu pour Thierry Pacaud.
Oui, bah alors, à nouveau Bachelard, il dit la maison n'est pas un corps de logis, mais un corps de songe. Et il a raison, on n'habite pas des mètres carrés. On habite une poétique qui est là et qu'on perçoit plus ou moins bien. Et donc ça, je crois que c'est très important. La représentation de la ville dans le cinéma, dans le roman, il suffit de... On va pas faire le masque et la plume ce soir, mais
non,
on va citer des tas de romans où la ville
sûr.
Est là. Et puis, le rap et le slam. Donc, il y a bien c'est là ça. Quelque chose qui est décisif. C'est-à-dire que notre imaginaire, c'est un imaginaire qui est topophilesque, inscrit dans un topos.
Eh bien, nous finirons sur ces bonnes paroles, parce que malheureusement, le temps est écoulé. Merci Thierry Pacaud, Mesure et démesure des villes, paru chez Biblis. Merci Patrick Boucheron, Libertés humaines, urbaines, pas humaines, mais quoi que, au CNRS Édition. Et je rappelle, je le dis, parce que je ne l'ai pas dit encore, que vous serez, Patrick Boucheron, à Blois, du 9 au... C'est le festival donc qui tourne autour de la ville cette année,
des rendez-vous
de l'histoire, du 9 au 13, et vous ferez une conférence le 13, c'est ça ?
C'est ça.
Merci à vous deux.